fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour vous servir. Merci de nous écouter partout où vous êtes en République démocratique du Congo et même à l'étranger et sur www.radiookapi.net. Comment honorer les pères de la nation? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec le professeur Yoka Jean Bedel, directeur général adjoint à l'Institut national des archives du Congo. Professeur Jean Bedel, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Kachama.
Bienvenue dans cette émission. On aura également en ligne le professeur Saint-Augustin Mwendambale, historien des mentalités. Pour participer à cette émission qui s'intéresse aux pères de la nation, comment les honorer et pourquoi les honorer, eh bien appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler VIH-SIDA, comment prévenir le VIH-SIDA ainsi que les autres maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes. Monsieur Stapping Kabongo, père éducateur chez DKT RDC, sera notre invité à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer le 081 890 63 94 pour vous inscrire et nous allons vous rappeler pour participer à cette émission. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation. Alain Goy, à la mise en onde, au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Bien. Comment honorer les pères de la nation? Chaque année, vous savez, la RDC commémore le 16 et le 17 janvier les héros nationaux que sont Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Ces journées sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national afin de rendre hommage à ces personnages qui ont milité pour la liberté du Congo. Pour de nombreux analystes, il est important d'honorer, comme il se doit, tous les pères de la nation, car on ne peut pas bâtir un Congo fort et prospère tout en méprisant ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la liberté et au développement de cette nation. Alors comment le faire? Eh bien, nous recevons dans ce studio le professeur Jean Bedel Yoka, qui est le directeur général adjoint à l'Institut national des archives du Congo, INACO, en sigle. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, et merci de m'avoir invité à votre plateau.
Bien, alors la première question est de savoir qui est... quand on parle du père de la nation, de quoi s'agit-il? Qui sont-ils?
Père de la nation, qui sont-ils? Tout devrait partir de la définition de ce que c'est qu'une nation. Une nation est tout simplement un ensemble national d'individus qui partagent une même expérience historique, culturelle, de sorte qu'ils s'identifient comme faisant partie d'une seule et même unité, comme je l'ai dit, nationale. Et donc, les pères de la nation sont entendus comme des personnes qui ont, par leur action, généralement politique, qui ont eu une telle implication, un tel impact sur cette constitution nationale que on les considère comme des référents qui participent à la consolidation de cette identité nationale.
Donc ce sont des référents.
Ce sont des référents du fait de la force mémorielle de leur action.
Alors au Congo, on en a combien et qui sont-ils?
Bien, les pères de la nation, il faut dire que il y en a, il y a une dimension institutionnalisée et une dimension que qui ressort de l'analyse, on va dire objective ou subjective de l'action que les uns les autres ont eu sur le parcours de la construction du projet national. Mmh. Dans notre cas spécifique, les pairs institutionnalisés sont ceux qui se sont battus avant et pendant le combat pour l'indépendance. Si nous remontons un peu plus loin, on cite Simon Kimbangu, dont l'action dans le cadre des mouvements messianiques avait déjà annoncé sa fameuse phrase Moindo akokoma mundele, mundele akokoma Moindo, qui présageait déjà
l'action libératrice. Qu'est-ce que cela voulait dire exactement?
C'est une image que le prophète Simon Kimbangu avait employé pour simplement dire que le noir, le congolais, allait se libérer, et il faut entendre par Mundele dans cet imaginaire comme étant le dirigeant, et que à partir du moment où le dirigeant deviendrait noir et que le congolais, donc noir, deviendrait dirigeant de son pays, le blanc ne serait plus dirigeant, il serait le dirigé parce qu'il deviendrait étranger dans le pays des congolais indépendants à partir de ce moment-là. C'est tout le sens de cette image là qui est fort pertinent et qui a été mobilisatrice dans le combat pour l'indépendance. Et ça, c'est ce qu'on peut considérer comme étant des pères, un des pères lointains, mais en tout cas l'un des plus énigmatiques. Et les pères de l'indépendance qui ont eu une action immédiate sur le combat pour l'indépendance, le plus.
Pardon, en passant, on parle aussi des Kimpavita.
Kimpavita, c'est encore un peu plus loin que le prophète Simon Kimbangu. Mais l'action de Kimpavita s'inscrit dans un cadre plus ou moins global, si je peux le dire. Ça dépend plus ou moins, parce que elle était une citoyenne de l'Empire Congo, et l'Empire Congo qui, comme vous le savez, un des grands empires qui est connu l'humanité, parce que moi personnellement je n'aime pas cette posture réductionniste qui porte à penser que les grands empires sont des empires orientés occidentaux, alors que nous avons connu des très très grands empires comme l'Empire Congo, qui dont l'action est politique et diplomatique avec tant le Portugal, le Vatican que d'autres empires occidentaux a été marqué d'une pierre blanche dans l'histoire. Et donc, pour revenir à Kimpavita, c'était une religieuse. Elle s'inscrivait dans le combat religieux messianique dans le cadre de l'Empire Congo, qui englobait les actuelles parties des territoires du Congo, de l'Angola, du Congo Brazzaville et peut-être un peu plus loin. Voilà.
Et elle avait annoncé aussi la libération du Congo.
Elle avait annoncé la libération parce que elle n'avait pas accepté la domination à cette époque-là déjà. Je pense au XVIIe siècle, la domination que subissait le peuple Congo de l'époque. Et bien entendu, elle est inscrite, Madame Kimpavita, morte brûlée, vive justement dans cette dynamique de libération qu'elle avait engagée, et dont Simon Kimbangu et d'autres de ses collègues ont été les poursuivants. Et pour revenir à ce que je disais, ceux qui ont agi directement sur le mouvement politique cette fois-là, parce que les actions de Simon Kimbangu et de Kimpavita étaient des actions fondamentalement religieuses, mais qui avaient un impact politique. Et sur le politique immédiat, à partir des années 55, 56 et 60, le plus emblématique d'entre eux, c'est bien Patrice Emery Lumumba, mais il n'était pas le seul déjà dans l'action sacrificielle qu'il a engagée, qu'il a mené à la mort. Il était accompagné de ses deux compagnons d'infortune, Monsieur Mpolo et Monsieur Okito, dont il faut quand même dire que, et avec raison, certains déjà leur famille, mais également certains historiens ne comprennent pas pourquoi est-ce que ces grandes figures du combat nationaliste n'ont pas également leur place dans le panthéon, on va dire, des grandes identités qui ont participé à la construction du pays. Mmh. Et avec eux, il y a le président Kassavubu ainsi que d'autres. Ben voilà.
Le président Kassavubu, on parle aussi du maréchal Mobutu. Aujourd'hui, on peut pas l'ignorer. Il a également marqué l'histoire.
Mais bien entendu, vous avez bien fixé la thématique de votre émission et votre première question était fondamentale. En situant la question autour des pères de la nation, la construction d'une nation est progressive parce que toute institution ou toute instance, ça a une naissance, une croissance, un apogée et une nation peut prendre fin. Oui. On a connu des grandes nations comme les nations grecques, qui ont les nations athéniennes qui ont connu des apogées et aujourd'hui, sont devenues pratiquement personne
on
ne parle,
parle plus
de,
plus, oui.
Ils ne parlent plus de. D'Athènes, etc., berceau de la civilisation occidentale. Et donc, le projet de construction nationale est un processus continu. Et on ne peut pas ne pas reconnaître l'action du maréchal Mobutu. Aujourd'hui, tout le monde est unanime sur le fait que son action en termes de construction ou de bâtissement de
l'unité
de cette
nationale.
Conscience pour l'unité nationale a été le ferment qui a sauvé, qui a été le, on va dire, le bouclier derrière lequel le Congo s'est abrité pour faire face et se sauver jusqu'aujourd'hui de la série d'agressions. On eût été cette conscience nationale qui a été bâtie par le maréchal Mobutu. Dieu seul sait ce que serait l'avenir de notre pays aujourd'hui et de notre nation congolaise en construction.
Il y a Mousé Laurent Désiré Kabila, le président Joseph.
Mousé Laurent Désiré Kabila, qui également a eu sa part dans ce processus de construction nationale, en se battant à sa façon contre le régime dont la dictature a fini par ne plus être acceptable et dont il fallait libérer ou au moins auquel il fallait mettre fin. Oui. On ne peut pas oublier l'action de Monsieur Étienne Tshisekedi, Monsieur Tshisekedi père, qui a avec ses collègues les 13 parlementaires, mais qui a fini par être le porte-étendard ultime de ce combat pour la réhabilitation de la démocratie congolaise. Mmh. Donc il y a eu comme ça des figures historiques qui ont marqué l'histoire du processus de construction de notre projet national.
Il y a le président
national.
Joseph Kabila aussi qui est encore
en vie. Oui, bien entendu, on peut toujours les historiens et les sociologues peuvent toujours déterminer la part du président Joseph Kabila dans ce projet national, mais on peut dans ce projet-là noter et ça on ne peut pas aller lui renier que il a matérialisé le projet de passation pacifique et ce qu'on appelait l'alternance pacifique et civilisée entre guillemets du pouvoir. Il faut quand même le dire, nonobstant ce glissement de 2 ans qui a été constaté, nonobstant les critiques qui ont été formulées, mais au moins les faits sont là. Le fait c'est que il a contrairement à d'autres présidents africains qui se sont accrochés au pouvoir, il a quand même compris finalement la nécessité de laisser le pouvoir être passé conformément à la Constitution. Nous ne pouvons que lui reconnaître cette part d'action qui aujourd'hui participe à la structuration de la culture démocratique congolaise.
D'accord. Voilà. On va accueillir le professeur Saint-Augustin Mwendambale, historien des mentalités. Professeur, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bien, avant d'aller plus loin, on va accueillir deux auditeurs et ensuite je vous donne la parole. Kachai nous appelle de Kanyuka et Gaston de Kinshasa. Kachai, bonjour.
Bonjour monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour à messieurs les professeurs, les invités de la Radio Okapi.
Kachai, nous parlons de comment honorer les pères de la nation. Quelle est votre question?
Merci beaucoup monsieur Jody. comment honorer le père de la nation. Le prof a commencé par détailler la situation pour nous rafraîchir la mémoire. C'est vrai, monsieur Jody, commençons par Lumumba Patrice Emery, qui a donné sa tête pour que la RDC devienne ce que nous vivons aujourd'hui, RDC. En tout cas, moi je constate qu'il est déjà honoré par le seul fait que le reste de ses répliques sont déjà ramenées au Congo par le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est quelque chose de très important. Je dirais jusque-là que sa mémoire est honorée parce qu'il est déjà dans la terre congolaise.
Il reste les reliques de Mobutu, Mobutu qui se trouve encore au Maroc.
C'est comme ça que j'ai commencé par Lumumba pour montrer que la RDC l'a honoré. Mais il y en a d'autres, les pères de la nation, qui ne sont pas jusqu'ici honorés par la RDC à telle enseigne que vous venez de l'évoquer. En tout cas, les reliques de Mobutu traînent encore au Maroc. Je demanderai au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de continuer la démarche amorcée par Joseph Kabila à son époque avec Zang Mobutu, lorsqu'il voulait que les corps de Mobutu puissent être retournés en RDC. S'il le fait, il va aussi marquer l'histoire et Mobutu va à ce moment-là demeurer en RDC. Ça sera un honneur très important à son endroit. En tout cas, Laurent Désiré Kabila, lui, est dans les terres congolaises et ces terres sont légères, paisibles, douces pour lui. En tout cas, nous ne pouvons pas oublier ce qu'il a fait parce qu'à cause de lui, il nous a libérés du joug dictatorial que Mobutu, que nous demandons à ce que son corps soit rapatrié au Congo, nous avait soumis.
Si d'accord, Kabila merci. N'avait merci.
Pas fait la forte tête.
Oui, merci Kachai.
À la dictature.
Oui. Merci beaucoup. On va donner la parole à Gaston de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Bien, Gaston, quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Bon, j'aimerais qu'on puisse demander un peu, même à vous, la radio, de vouloir rectifier un peu. Au lieu de parler des pères de la nation, qu'on puisse parler un peu des serviteurs de la République, de la nation congolaise.
Oui, on parle toujours des pères de la nation,
Monsieur Gaston. Mais moi, je vais dire serviteurs. Parce que pourquoi, je vais dire qu'il y a plusieurs personnes qui servent notre République ou pendant leur vie et qui meurent comme ça sans être aperçus comme un père. Je peux revenir comme père de la nation.
D'accord.
Au moins, par rapport au père que nous connaissons, moi, je pense que la meilleure manière de les honorer, c'est par rapport à même, par rapport à leurs idées. Parce que vous savez, on a Lumumba qu'on considère comme le premier révolutionnaire, celui qui n'a pas voulu qu'il soit dominé, qui a voulu vivre dans sa pauvreté mais être indépendant, et qui n'a plus voulu subir des injonctions, être un travailleur de quelqu'un. C'est peut-être l'image que tout le monde devrait avoir en tant que citoyen partout où il vit. Parce que les pères de la nation, ce sont ceux-là qui nous apprennent certaines choses à faire ou à vivre.
Et quelle est la question pas... Quelle est la question maintenant, rapidement?
Oui, la question pouvait être celle-ci par rapport à nos invités, comme on a l'habitude. Nous avons Héro Lumumba qui n'est plus appliqué. Donc ces idées ne sont plus appliquées. Et on a aussi Lumumba et puis Kabila, qui ces idées ne sont plus appliquées. On a même, je peux dire, papa Tshisekedi.
D'accord. Donc pour vous, meilleure façon de les honorer, c'est d'appliquer leurs idéologies, etc. Merci. C'est professeur professeur Mwendambale, vous avez la parole.
Je vous écoute, Jody. Bon, je suis d'accord avec les intervenants, et en particulier mon collègue... qui
professeur
a
Jean
la
Bédel.
Coupe de la parole. Je dirais d'abord qu'il a commencé par là. Qu'est-ce qu'une nation? Pour pouvoir en définir les pères fondateurs ou bien les serviteurs qui ont eu à s'engager pour son évolution, son développement. Si c'est un vaste groupe humain, le dictionnaire le dit simplement, qui est caractérisé par l'idée obsessionnelle de l'unité et de la volonté de vivre ensemble, hein, pour le bien-être des habitants, partageant l'espace, ainsi de suite, pour le bien-être des générations futures. Je dirais pour moi que un père fondateur, un père, le père de la nation, c'est celui qui s'est engagé pour la libération de cette nation, pour la continuité de la politique acquise, et qui a marqué son temps par des idées fortes. On ne peut être père de la nation quand on a vécu son pouvoir dans les carnages, dans le fait de pendre et tuer des personnes humaines. Non, je ne pense pas. Et c'est là où peut-être la problématique se pose. C'est pas parce qu'on a accédé au pouvoir à un certain moment qu'il faut nécessairement, après un nombre d'années passées, qu'on soit identifié comme père fondateur. Non, non, non. Le père fondateur doit se faire dans le bien. Lumumba en est l'exemple. Et même Kasavubu, qu'on semble ignorer, cet homme a vécu dans une exemplarité exquise. Alors, un homme comme celui-là, on le considère pour... Il est le premier Congolais à occuper ces grands postes de responsabilité auxquels on ne pensait pas d'ailleurs pouvoir y placer un Congolais. On s'est demandé comment l'État s'est comporté, mais il a su dévier les intrigues de différents bords. Et voilà cet homme qui va mourir. J'ai été visiter sa maison à Boma. Il avait une maison à Kisundi. Et à part ça, il n'en avait pas d'autres. Un homme comme celui-là, qui s'est permis même de restituer l'argent sur les comptes du trésor public, l'argent d'émission, les frais d'émission. Voilà des actes qui marquent. Hein, donc attention à la notion des héros. Bon, si on veut obtenir ces termes à travers une approche violente du pouvoir, c'est-à-dire on occupe, on remplace tel autre, on coule le sang, l'essentiel c'est de remplacer. Bon, on peut comprendre, on peut dire lui n'a pas été héros parce qu'il n'y a pas eu cette violence. Lumumba, à qui revient ce titre au Congo, il est vrai, il a travaillé. Il a été un homme qui a résisté à la colonisation. Il a réclamé l'indépendance de notre pays. Vous avez vu avec quel courage. Et il a bravé nos anciens maîtres colonisateurs en improvisant un discours. Donc c'est un homme qui ne pouvait pas accepter du tout une domination, une aliénation de ses droits. Et il ne voulait pas non plus composer avec la tricherie des gens qui voulaient nous faire croire, oui, qui nous accordaient l'indépendance.
Professeur Mwendambale,
ils l'ont voulu, oui.
Comment aujourd'hui honorer le père fondateur? Parce qu'on voit dans d'autres pays, on retrouve les effigies de ses pères sur la monnaie. Ici, chez nous, à RDC, on ne retrouve que les animaux, voilà, l'environnement, etc. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays, même en Afrique, ici, vous retrouvez les effigies des pères fondateurs sur la monnaie. Pourquoi ce n'est pas le cas ici?
Déjà, le fait de frapper la monnaie en utilisant les effigies, c'est déjà une reconnaissance. Mais on ne peut pas prendre tous les héros. Il y a des qualités aussi, des défauts qui se trouvent dans leur parcours. C'est ce que j'ai dit, un président qui était sanguinaire. C'est pas parce qu'il a régné 30 ans, 40 ans, que vous allez frapper la monnaie avec son effigie, parce que ça sera une façon de rappeler des mauvais souvenirs du pouvoir. Alors moi je dis ceci, pour honorer, on peut utiliser cette stratégie en frappant la monnaie, mais il y a encore plus que ça. Je peux vous dire un mot qui ne risque de ne pas choquer, je l'espère bien, que nous sommes des professeurs d'université, nous, mais je vous dis, si vous demandez à un professeur de vous lire, ne fût-ce que la phrase introductive de notre constitution, vous n'en trouverez pas. Il ne sera pas capable de le faire. Ça m'a étonné quand j'étais aux États-Unis, parmi mes séjours, de voir un petit enfant, il commence par la première phrase de la Constitution, dit ceci. Et au milieu, j'ai choisi encore un mot qui m'a plu. Et à la fin, voilà, un troisième mot qui m'a plu. C'est difficile. Ça, je vous l'ai dit sincèrement. Est-ce que nous prêchons le culte de nos héros ou pas? ces héros qui sont morts pour l'indépendance, pour les honorer avec les billets. Mais il y a plus que ça, c'est toute une idéologie qu'il faut préserver, prendre les bonnes idées qu'il avait, préparer le mausolée, vous exposer cela, les universités vous en créer avec les noms de nos grands héros. Lumumba, Lumumba dont on parle ici, il est reconnu comme héros de la République démocratique du Congo, l'indépendance. À Moscou, il y a une université, Patrice Emery Lumumba, au cœur. Il y a une université Patrice Emery Lumumba, et montrez-moi l'université Patrice Emery Lumumba au Congo, là où il est héros. Voilà les exemples qui choquent un peu. C'est à peine qu'on vient de lui trouver une ville, Sankuru-ville, Lumumba-ville, c'est à peine, grâce à la débrouillardise d'un politique qui cherchait à avoir son tremplin, préparer son électorat, pour ses intérêts personnels, il a pensé quand même à cette idée. Voilà un peu ce qui me choque, moi. Ça, je ne peux pas vous cacher. Mmh. Ça me choque beaucoup de voir qu'un héros comme celui-là n'a pas une université. Kabila Joseph et Kabila Musé, il a eu à chasser la dictature. C'est bon. Est-ce que vous avez cherché à l'honorer? Bon, vous pouvez prendre une avenue. Musé, Laura, Désiré, Kabila, d'accord. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Au-delà d'un simple boulevard Lumumba, pour les pérenniser à travers les actes forts, comme une université propage l'idéologie. La première des choses, quand vous entrez dans l'université, l'historique de Lumumba. Pourquoi on appelle ça l'université Lumumba? Déjà, vous avez fait une petite page d'histoire de notre pays. Et puis les idées, il y a des théoriciens maintenant. Le parti lumumbiste ici, je ne sais pas s'il va encore prendre combien de temps pour survivre, mais il y a des divisions internes terribles au point où on en arrivera à la bifurcation où le mot Lumumba va disparaître.
Merci, vous professeur. Oui. Ouais. Merci beaucoup, professeur Mwendambale. Je rappelle que vous êtes historien de mentalité. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, monsieur Jules.
On va accueillir Antoine Monzengele de Kisangani et Soupi Nyembo de Kalima. Antoine, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est celle-ci. Puisque le professeur nous a bien détaillé la chose, alors où nous sommes-nous? Où sommes-nous par rapport au discours dont le président de la République avait dit dans son passage en Kamba le 6 avril 2021 pour honorer ceux qui sont militaires pour notre pays. Il a dit dans son passage en Kamba, mais jusque-là, il n'a pas encore réalisé son discours propre à lui. Alors, par rapport aux propos que le professeur nous a vraiment détaillés, c'est-à-dire notre pays n'a pas vraiment besoin de... n'honore pas la qualité des personnes qui se luttent contre notre... qui se bat pour améliorer les conditions de notre pays. Et ne serait-ce pas dans l'idéologie dont les pères de la nation se battaient pour avoir un beau pays, or que nous sommes retrouvés dans un pays où tout le monde veut faire tout ce qu'il veut pour imiter l'idéologie dont leurs prédécesseurs avaient initié, qui ne respectaient pas ça. Merci.
Merci. Soupi Nyembo de Kalima, bonjour.
Oui, je dis merci pour la parole. Moi, je pense que...
Quelle est votre question? À passer directement à la question, Soupi Nyembo.
Oui, je passe directement à la question. Alors, la question que je voulais demander, je remarque que dans notre pays, il y a tant des nationaux. Mais il y en a d'autres dont leur journée passe inaperçue, telle que Mamadou Sala. Je vois que d'autres héros, leur journée sont honorés, mais il y en a d'autres héros, leur journée passe inaperçue. On n'honore pas les jours ou la mémoire de ces héros-là. Alors je me demande pourquoi il y a cette confusion dans notre pays.
Bien, merci beaucoup. Professeur Jean Bedelioka, à vous la parole.
Ok, j'aimerais saluer l'intervention de vos différents intervenants. Au premier rang desquels celle de monsieur le professeur Mwendambale que je salue et dont j'apprécie la définition qu'il euh, qu'il donne il s'apesantit sur le concept de du vivre ensemble, et il va même plus loin, la volonté passionnelle du vivre ensemble. Cette volonté, pour qu'elle soit passionnelle, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des mythes mobilisateurs. Ces mythes mobilisateurs sont des instants, des instances qui permettent de faire rêver, qui permettent de consolider cette volonté du vivre ensemble, qui permettent de consolider la fierté qu'a chaque citoyen d'appartenir à une nation. Sinon que de dire ce que parfois nous entendons ici, Mboka oyo toteka yango kaka. Parce que il y a de moins en moins des mythes mobilisateurs, et il y a de moins en moins il y a la construction d'un narratif qui mobilise la fierté nationale. C'est autour de ça que, bien entendu, le parcours et l'action de certains fils du pays sont à être mis entre parenthèses, mis en épingle pour être relevés. Et ainsi, par exemple, au travers différents moments de commémoration historique, le premier moment d'entre cela étant le cours d'histoire. Le cours d'histoire, monsieur le professeur parle d'université, mais une université, mais bien entendu c'est important, mais la valeur de l'histoire, la manière dont une nation travaille pour transmettre de génération en génération la mémoire continue, qui consolide en effet cette passion du vivre ensemble, qui fait que l'enfant qui naît dans 10 ans voudra être congolais parce qu'il aura été fier d'appartenir à la même nation que Mamadou Ndala, par exemple, de très heureuse mémoire. Un jeune haut militaire qui s'est battu au point de se sacrifier. Combien de jeunes hommes ne sont pas entrés dans l'armée parce que voulant suivre l'exemple de Mamadou Ndala. Voilà pourquoi il y a des institutions universitaires, il y a des mémoriels.
Au niveau des archives, pourquoi ne pas avoir des musées, etc., où les gens peuvent venir comme ça se fait ailleurs dans d'autres pays, où on vient visiter par exemple la chaise où se mettait Mamadou Ndala, ou les vêtements d'un ancien président, etc.
Toute la valeur justement et tout l'enjeu de la fonction culturelle dans une nation et toute la bataille, j'imagine, des institutions, c'est de valoriser ces différents instants, ces différentes instances de conservation des mémoires. Vous avez parlé des musées. Je travaille aux archives nationales, à l'Institut national des archives du Congo. Le travail qui est fait, justement, c'est de réhabiliter et de conserver de la façon la plus durable et la plus efficiente possible cette trace de l'action mémorielle de ces hommes, de ces heureux hommes du passé, au fin de transmettre cette mémoire à la postérité. C'est fondamental. Et donc, vous verrez dans certains pays, comme la France par exemple, il y a diverses instances de conservation, de communication et même de valorisation des hauts faits de toutes les personnes qui ont, à un niveau ou à un autre, réaliser des actions qui permettent à la nation de se réaliser parmi d'autres nations à travers le monde. On les valorisera, ça mobilisera les autres à faire pareil. C'est cela. Et dans notre pays, je pense qu'il y a un effort à faire. Le professeur a parlé des universités, j'y reviens encore, mais moi je pense qu'il y aura un effort à faire dans notre pays pour que le ministère de la culture, parce que si l'on veut consolider la nation, il faut que ces moments qui caractérisent ce vivre ensemble, qui se traduit donc par la culture, parce que la culture n'est autre chose que cet ensemble d'usages, des pratiques, d'habitudes qui traduisent l'identité d'une communauté. Et donc, on n'a qu'à voir le niveau aujourd'hui du ministère de la culture. C'est quasiment le dernier ministère dans la structure gouvernementale. Lorsque dans la réforme des institutions dans notre pays, on accordera sa place à un ministère comme celui de la culture, à un ministère comme celui de l'enseignement, en mon sens, dans la perspective, dans la dynamique de la construction d'une nation, si ces deux ministères occupent une place de premier rang, eh ben, l'on va accorder leur place au travers le travail qu'il va faire. Que ce soit le ministère de l'enseignement, notamment par des cours comme des cours d'histoire, parce que c'est à travers ce cours-là que l'on transmet on va dire ce patrimoine culturel, au travers le ministère de la culture qui a dans sa tutelle des services comme les archives nationales, les musées, etc.
Professeur Jean Bédel, qu'est-ce qu'il faut pour ramener les effigies des héros, des pères fondateurs sur notre monnaie?
C'est une option.
C'était comme ça à l'époque, mais c'est une option. Après, on le voit plus.
Je pense que l'affichage des effigies dans une monnaie n'est pas à être considéré comme la seule action valorisatrice et mémorielle par rapport à nos héros nationaux ou plus largement, parce que tous ne sont pas forcément des héros nationaux, ce qu'on peut considérer comme
qu'on la manipule tous les
parce
jours
qu'on la manipule, ce serait essentiel, bien entendu, quoique du régime de Monsieur Mobutu, l'affichage dans la monnaie avait été utilisé comme un instrument de communication politique et d'exaltation du mythe de l'individu, de la personne du chef de l'État. Mais si une option politique en termes de transmission continue et efficient de la mémoire est levée pour que toutes les personnes, tous les personnages qui ont marqué l'histoire de notre pays soient commémorés, soient communiquer dans la continuité mémorielle de la nation, et que, comme vous le dites, la monnaie qui est l'outil le plus utilisé, un peu comme aux États-Unis, etc., ces personnages-là soient immortalisés, eh ben ce ne serait que très louable, et c'est comme cela que il y a tout un service public qui s'occupe des ordres nationaux qui travaille donc pour analyser, identifier des personnes qui se démarquent par leur histoire, par des pratiques professionnelles ou diverses, etc., et qui doivent donc être décorées comme étant et être reconnues, j'allais dire, comme étant des personnes particulières et qui doivent servir de référent pour les autres. Voilà.
Bien, on va accueillir le docteur Anissé qui passe à Dekikuit et Malung à Debanonville. Docteur Anissé, bonjour.
Ah, bonjour Jody, bonjour à tous les intervenants et surtout au professeur qui venait d'intervenir. Je voulais juste ajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. Jody, tout ce qui je prends pour notre pays, la construction de notre nation, il y a des héros, comme on le dit, des héros nationaux, mais il y a aussi ceux qui, comme il a dit, qui ont marqué la construction du pays dans divers domaines par leur bravoure, par leur héroïsme, par leur sens de civisme. Mais il a dit quelque chose de très important, de battre la monnaie, mettre l'effigie, comme vous l'avez dit, ça c'est un de processus, et la baptisation des avenues, des villes, c'est une chose. Mais je voudrais ajouter, c'est que nous oublions la mémoire collective, comme il a dit, du Congolais, oublie vite et très vite si on a juste l'effigie et les musées. Mais ce qui se passe par exemple aux États-Unis, c'est que nous les Congolais, la mémoire du Congolais fait et facilement, comme si on effaçait le tableau, c'est la destruction de leurs œuvres. Regardez, aujourd'hui nous avons Kawele, et nous avons Kawele qui est complètement détruit. Si Kawele était là, la mémoire de Mobutu, et aujourd'hui c'est Kingakati, demain ça sera autre chose, il y a Nkamba. Si on essaie de faire de ces endroits-là où il y a eu des gens qui se sont distingués, on garde, vous allez aux États-Unis, vous avez les centres de Martin Luther King, et Jimmy Carter est en train de faire un autre centre. Mais chez nous, l'AFD, je ne sais pas c'est quoi, ceux qui venaient pour la libération, ils arrivent à l'Équateur, la première des choses, ils détruisent tout ce que Mobutu avait fait. Ce qui aurait pu être bien pour, comme l'a dit le professeur, continuer la mémoire de ces gens-là. Et non seulement pour continuer, mais pour servir d'émulation aux jeunes. C'est là, parce que les fusils peut-être sur l'argent, mais on oublie, on achète. Mais si les gens doivent aller, par exemple, à Kawele pour visiter, qui était Mobutu? Qu'est-ce qu'il avait fait? Et en ce moment-là, ça reste dans l'histoire. Les gens peuvent aller en Kamba. Si les gens n'allaient pas en Kamba, je te dis aujourd'hui, la mémoire collective du Congolais allait se souvenir à peine de Simon Kimbangu et Lumumba. Heureusement qu'on vient de baptiser la rue. Je te donne un autre, Gizenga. Gizenga, le village de Gizenga, là où Gizenga a commencé aujourd'hui. Personne ne connaît ça. Même les jeunes, personne. Et pourtant, ça aurait pu servir de d'émulation. Mmh. Un centre. Demain, ça sera Mouyembe. Quand Mouyembe va partir, les gens vont oublier qu'il a fait des choses pour notre nation. Je parle pas de même par rapport au journalisme. Le grand journaliste qui était là avant, où est-ce qu'ils ont commencé à travailler? Tous ces grands professeurs qui étaient là, ce ne sont pas des héros, mais ils ont fait des choses qui étaient tout à fait particulières, qui ont construit notre nation. Le professeur Malou Wakalenga à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, les gens oublient que ce monsieur, c'était aussi un savant. C'est parce qu'on détruit, qu'on nous remette Kawele. L'histoire de Mobutu, les gens vont visiter et les ministères de tourisme vont en profiter.
Donc, docteur Anissé, par rapport à Mobutu, par rapport aux reliques de Mobutu, on avait suivi la vidéo de Maman Bobby Ladawa qui disait oui, on est prêt à ramener les reliques, les restes de Mobutu au Congo, mais on doit d'abord restaurer sa mémoire parce que sa mémoire a été, on a craché dessus, on l'a traité de voleur, etc., corrompu, alors qu'il a aussi contribué pour l'unité nationale.
Vous avez parfaitement raison. On peut le faire, on aura des cérémonies, on peut prendre une semaine à parler de cela. Mais ce qui est très important, le Mobutu incarnait un type, non seulement pour nous, mais pour l'Afrique. Qu'on nous remette Kawele, ça va nous dire l'idée, les idées de Mobutu et qu'est-ce qu'il voulait exactement. Si vous allez en Afrique du Sud, là où Mandela, même la prison où Mandela était, c'est devenu un fait qui rappelle aux gens l'héroïsme de Mandela. Mais chez nous, où est-ce que Mobutu, pourquoi on a détruit Kawele, mon Dieu? Pourquoi on a détruit Kawele? Demain, quand Kabila ne sera plus là, on va détruire aussi Kingakati. On va détruire Kingakati. Pourtant, on peut garder en faire un patrimoine national pour chercher à exploiter, à voir quelles étaient les idées de Kingakati. Mobutu, on va prendre un mois, deuil national, tout ce que vous voulez. Mais tout ce que nous voulons, rétablissez ce que Mobutu représentait à Kawele. Nous avons Louis, les grands rois en France. Aujourd'hui, quand vous allez visiter les châteaux où ces gens-là étaient là, le grand professeur d'histoire, quand on célébrait 50 ans de du Congo, il est passé à Kikwit, on lui avait dit, professeur, pourquoi vous faites pas de Kinshasa une ville de monuments comme ça s'est fait à Washington et tout ça? Il a dit oui, mais, et c'est ça qui construit l'histoire. L'histoire, c'est pas seulement mettre les fusils sur la monnaie ou tout ce que vous voulez. Qu'on nous rétablisse tous ces endroits-là.
Tous ces sites-là, oui.
Voilà ces sites qui vont faire que les jeunes iront là-bas. Ils vont avoir... Vous regardez, aujourd'hui, j'ai terminé par là. Oui. Vous savez pourquoi Ben Laden n'a pas de tombe? Pourquoi Ben Laden n'a pas de tombe? C'est parce que...
Pour effacer sa mémoire.
Quelque part, oui, si on avait mis la tombe de Ben Laden, ou là où Ben Laden avait grandi...
Ça serait un lieu de pèlerinage.
Oh, je te dis, c'est un site qui va rappeler aux gens la bravoure de ces messieurs, la bravoure de Mobutu, de Kabila le père, de Kabila les fils, aujourd'hui, de Tshisekedi. On doit refaire ça. Tous ces gens-là. N'oubliez pas Mouyembe aussi, hein. N'oubliez
d'accord.
Pas.
Merci. Le professeur Jean Bedel a parlé du ministère de la Culture, qui n'a pas assez de moyens pour tout ça. Malonga, vous êtes à Banouville. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à nos invités.
Quelle est votre question?
Bon, ma question est basée sur les propos que le premier invité a dit. Puisqu'il a dit que non, ce n'est pas vous nous aviez aidé pour lui poser la question de dire que est-ce qu'on est prêt à mettre les effigies de nos héros dans les monnaies. Mais lui, il a dit que non, ce n'est pas tout le monde, il y a ceux qui étaient considérés comme héros, mais ils ont fait aussi des choses horribles. Non, ce sont les biens qui suppriment le mal. Vous voyez. Et moi, je suis vraiment pour les effigies aux monnaies. Pourquoi cela? Même mon confrère qui vient de dire là-bas qu'on ne peut pas le mettre. Non, il faut le mettre, puisque c'est l'historique. Vous voyez, aujourd'hui, nous connaissons le déroulement des grands hommes américains. C'est suite à leur monnaie. Hein? Même nos enfants aussi. S'ils utilisent ces monnaies-là, les arrières, nos enfants, tout ça, ils auront vraiment les meilleures histoires de notre pays et de notre succession de domination. Mm. Bon, pourquoi on refuse cela? Bon, mettre les animaux, mettre tout ça, la richesse, montrer la richesse aux monnaies, ce n'est pas aussi mal. Mais on peut combiner. Il y a la richesse là, et l'image de Lumumba, et l'image de Mobutu, et l'image de Laurent Désiré, et l'image de Mamadou Ndala, et l'image, ils sont nombreux. Ce n'est pas ce que les Occidentaux nous tient et nous imposent d'être héros, mais nous connaissons aussi notre héros que nous connaissons ici, qui ont aussi perdu leur vie.
Voilà, on doit les valoriser parce que la jeunesse, la génération actuelle a besoin des modèles, des références, professeur Jean Bédel. Merci beaucoup.
Merci de ce que vous venez de dire, et le docteur Akikuit, si je ne m'abuse, a dit quelque chose de... Je salue ce qu'il a dit, c'est que, en fait, dans un processus, nous sommes toujours dans notre thème de la valorisation des personnages qui ont marqué l'histoire et qui sont considérés comme des modèles, des référents, et dont l'action participe à la construction de ce mythe mobilisateur qui aide à consolider la nation, pour dire que tout est fonction de la vision que l'État, le gouvernement a pour donner à sa nation, à un État, l'image que l'on veut projeter. Et dans cette construction de cette image, il y a tout un travail de sélection des faits, des valeurs qui sont mobilisatrices. Lorsque, par exemple, on parle de Patrice Emery Lumumba, l'on met au devant de l'action de cet illustre personnage son courage et son sens de la patrie. Et donc, on va monter en épingle dans la jeunesse, dans le reste de la nation, cette valeur-là pour dire voilà quelqu'un qui a été jusqu'à accepter le sacrifice suprême parce que l'intérêt de la nation était en jeu. Lorsque l'on doit...
Et ça, c'est votre travail, les archives, la culture.
Justement, la culture, c'est comme ça que j'ai parlé de la culture comme socle de la construction d'une nation et l'histoire comme véhicule, comme vecteur de cette communication de la mémoire continue. Et ces deux fonctions...
Ils marchent ensemble.
Ces deux fonctions nationales marchent ensemble, et pour construire notre pays, nous avons vu comment est-ce que le Congo a été sauvé par ces sentiments d'appartenance à la nation. Parce qu'il y a eu un travail en amont qui avait été fait. Et mon appel ici, notre appel ici, ce serait de solliciter auprès du gouvernement, auprès de décideurs, de donner leur valeur à ces deux ministères-là au regard des fonctions centrales qu'elles exercent. J'évolue, on peut prendre comme ça Kassavubu, on mettrait en exergue son sens de la gestion saine de la chose publique. Mmh. L'on prendrait Mobutu pour mettre en exergue son sens de l'unité nationale, parce que lorsque on analyse le parcours et les actions détaillées de chaque homme d'État, l'on ne manquerait pas. Il y en a dont le côté et les aspects, on va dire, négatifs sont un peu plus importants que d'autres. Mais ici, le plus important, c'est de mettre en valeur ce qui est mobilisateur. Mmh. Je prends juste un petit exemple. Il y a eu un grand débat pendant très longtemps en France sur la mémoire, la valeur mémorielle qu'il faut accorder à un personnage comme Napoléon Ier Bonaparte, dont le caractère dictatorial et, à la limite, parfois tyrannique, a été reconnu particulièrement. Il a, alors que la France venait d'engager la révolution, la première révolution d'ailleurs démocratique au XVIIIe siècle, Napoléon Ier Bonaparte a réhabilité l'Empire. Mais quand les Français prennent en compte la valeur de l'homme en tant qu'homme de guerre, en tant qu'homme d'État, qui a habilité la France et l'a positionné à un certain niveau sur le champ européen, la France l'a valorisé à sa juste valeur. C'est cela. Et vous verrez que le retour de Napoléon Bonaparte de ses reliques en France a été un moment de grande célébration. C'est cela. Donc il y a un travail de construction.
Professeur Anissé a dit qu'il faut rétablir Kaweulé. Pourquoi on a pillé la maison de Mobutu à Kaweulé? Et comment le rétablir aujourd'hui?
J'appelle ça des lieux de mémoire. Je salue l'action du ministère du tourisme, par exemple, qui est en train de réhabiliter, ou si c'est pas déjà, ça n'a pas déjà été complètement fini, le site de l'Ancelé qui a été transformé en un site touristique. Vous allez dans un pays comme la Corée, vous avez des musées partout. Et ces musées-là, c'est quoi? C'est parfois des anciens palais royaux. Vous voyez? Et dans ces palais royaux est communiqué et remémoré des instants de grandeur de la Grande Corée. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, le Japon et un peu en partie la Chine ont travaillé à l'abaissement ou à l'effacement de la culture coréenne. Et le travail qui est fait aujourd'hui par la Corée, c'est de réhabiliter dans la jeunesse cette grandeur. Donc, la réhabilitation ou la construction des lieux de mémoire, aussi bien des grands lieux historiques, la maison de Patrice Emery Lumumba, les maisons de Mobutu, pour parler de Kaweulé, aujourd'hui,
Kasavubu,
sa maison dans son village natal, ce sont des lieux d'histoire qu'il faut conserver et affecter comme de lieux de tourisme, des lieux de visite de la jeunesse et de consolidation de cette mémoire et de la communication de cette mémoire nationale. Mais au-delà de ça, il faut également construire des édifices, des statues, des grands monuments, débaptiser des avenues. Le professeur a parlé des universités qui doivent porter des noms. Il s'agit là des institutions qui sont, on va dire, dans la valeur et la dimension font que la débaptisation au nom de certaines personnalités fera que leur mémoire va être diffusée et perpétuée dans le temps. Je reviens encore sur la mémoire d'un monsieur comme Mamadou Ndala, d'un monsieur comme Boudja Mabé, par exemple, dans le milieu militaire. Ils sont nombreux comme ça. Mais cela sans compter, bien entendu, cette autre instance mémorielle qui est les effigies dans les monnaies. Là également, une option de politique publique, Laurent Désiré Kabila, pour effacer le trace de Mobutu, a décidé de dépersonnaliser les images, les effigies dans les monnaies en valorisant la richesse nationale. Oui. Ça a été une option, mais je rejoins le docteur qui a critiqué, et ça doit être critiqué, cette politique de la terre brûlée qui consiste à effacer l'histoire et à la refaire. Nous ne referons jamais une histoire parfaite. Une histoire est construite de la somme des acquis positifs. On a eu, nous avons parlé de Kimpavita, il y a eu Lumumba, il y a eu Mobutu avec ses méfaits, Laurent Désiré Kabila est arrivé avec ses méfaits, Joseph Kabila, le président Tshisekedi. Mais nous capitalisons les acquis positifs et ce sont ces acquis positifs que nous transmettons à la postérité et c'est
Professeur
ça qui construit la nation.
Un instant, on va suivre les informations.
Je vous en
et
fait.
Ensuite. Mesdames, Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons poursuivre avec le professeur Jean-Bédel Ioka. Avec lui, nous allons conclure ce sujet intéressant sur comment honorer les pères de la nation. Et ensuite, nous allons aborder notre deuxième sujet qui est comment s'occupe de la prévention du VIH/SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes avec Monsieur Staping Kabongo, et qui est père éducateur chez DKT, République démocratique du Congo. Pour participer à cette émission, composez le 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Bien, comment honorer les pères de la nation? Professeur Jean-Bédel Ioka, vous êtes directeur général adjoint à l'Institut national des archives du Congo. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des ministères qu'il faut donner de moyens, par exemple le ministère de la Culture, les historiens, on doit également les impliquer, ainsi que le ministère du Tourisme, amener la jeune génération à aller visiter certains sites. Et vous avez appelé ça des mythes mobilisateurs, tout ça. Mais il faut aussi une vision claire. On peut vous donner des moyens, mais quand il n'y a pas une vision claire par rapport à ce qu'on veut atteindre, est-ce que ça va marcher?
C'est pour ça que j'ai parlé de... Il y a toujours des options qui sont levées dans le cadre des politiques publiques, des programmes de gouvernement qui se définissent dans leur étalement dans le temps. Pour construire un mythe mobilisateur qui constitue le socle autour duquel une nation se construit, ce n'est pas affaire de 2 ans, ce n'est pas affaire d'un mandat, c'est affaire d'une ou de plusieurs décennies. Pour que les États-Unis soient ce qu'ils sont, la France, etc., il y a certes la puissance économique, il y a certes la qualité de gouvernement, mais il y a aussi ce mythe qui a été construit autour de cette nation-là pour que l'Américain, dans sa tête, au-delà de sa puissance économique, il sait qu'il est le plus puissant.
Et ils ont véhiculé ce mythe à travers le monde, au travers de leurs films,
voilà,
des chansons, etc.
Voilà, aujourd'hui, nos frères rwandais, mais ils sont appréciables parce que Il y a un projet national, un projet du mythe mobilisateur rwandais. Chaque enfant qui naît autour de la grandeur du Rwanda, nonobstant la petitesse de leur espace vital. Le Japon a également été construit autour de pareils mythes. Vous voyez? Nous, aujourd'hui, il est essentiel que le Congo construise ou reconstruise son mythe. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour l'assurer.
Mais la grandeur du Congo.
La grandeur du Congo, cela doit être pensé. Et les penseurs doivent être mis au service du gouvernement. Et pour que cela se fasse, il faut que le gouvernement fasse cet appel. Tende ce bras-là. Accorde l'intérêt qu'il faut. J'ai cité les 2 fonctions ou les 3 fonctions publiques fondamentales qui sont la fonction de la culture, la fonction du tourisme, le tourisme de sites de mémoire, et la fonction de l'enseignement au travers principalement les cours d'histoire. Et lorsque l'importance sera donnée à ces fonctions fondamentales, l'option sera faite pour que les choix ne soient pas portés sur n'importe qui. Mais le problème, ce n'est pas forcément les têtes des exécutifs. Le problème aussi, ce sont les animateurs des services techniques au ministère de la Culture qui désigne-t-on pour diriger tel ou tel autre service. Au ministère du Tourisme, qui désigne-t-on pour diriger tel ou tel autre service? Parce que ce sont les techniciens qui sont les penseurs. les exécutifs ne sont que des mandataires provisoires et temporaires. Et donc, lorsque ce mixage sera fait autour d'une vision qui est communiquée sur la nécessité de construire cette grandeur de la nation et de la maison Congo autour des acquis, des parcours heureux, des grands noms, des grands fils de ce pays, nous les avons cités, il y en a qui sont connus, d'autres ne sont pas connus. Aujourd'hui, pourquoi ne pas, par exemple, parce qu'on parle de la bonne gouvernance. Ok, la gouvernance positive. On a aujourd'hui, et c'est très bien, le président de la République a mis en place, a valorisé un service comme l'IGF. Oui, l'on présente les sanctions, les mauvais gestionnaires. Mais, et si, imaginez que, en même temps qu'on monte en épingle le dossier des mauvais gestionnaires, l'on met en exergue les bons gestionnaires.
Voilà.
Lorsque l'IGF fait son audit, il a présenté les détourneurs, mais il présente deux ou trois bons gestionnaires excellents et ils sont primés. Ordre national de Léopard,
le
Léopard national, reçu par le président de la République avec ascension. Vous imaginez comment est-ce que ça va stimuler? On aura des référents positifs, parce qu'il ne faut pas que l'on vende toujours dans ce pays des référents négatifs. C'est que des détourneurs, c'est que une armée faible, c'est que des gens qui sont pas intelligents, c'est que des professeurs corrompus, c'est que ceci, c'est que cela, c'est que des mauvais ministres. Mais le bon ministre, le bon dirigeant, le bon chef d'entreprise, et qu'on le valorise. Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de détourneurs? Vous pensez qu'au Japon, il n'y a pas de mauvais soldats? Mais il y en a peut-être tout plein.
Le bon enseignant.
Le bon enseignant. On ne nous montre que l'enseignant en culotte trouée. Mais Seigneur Jésus, pourquoi on ne nous présente pas l'enseignant qui a produit tel ou tel, etc. Je finis, je vais peut-être heurter, que mes amis français me pardonnent si cela va heurter. Vous savez, ce qu'on nous montre sur France 24, quand on vous montre Paris, ce sont les plus belles avenues de Paris. Mais on ne nous a jamais montré les bidonvilles de Paris. Pourtant, il y en a en plein Paris.
Mais ça, on ne va pas vous montrer.
On ne va pas nous montrer. Sûr. Mais quand on parle de Kinshasa, c'est pas Kadjouma. On ne va jamais nous montrer la belle avenue de Kinshasa et la mettre en valeur. C'est ça la construction d'une nation. Il y a les hommes, leur parcours. Et c'est comme ça que, quand, par exemple, le professeur, je respecte cher aîné, pour tout ce qu'il a dit, mais lorsque nous n'avons que à mettre en épingle le mauvais côté des dirigeants, mais non, ça ne doit pas être que ça. Bien entendu, il faut décrier. Mais pour ce qu'ils ont fait de positif, reconnaissons-le, mettons-le.
Et ça, nous, qu'on dit, on ne doit jamais exposer son père, même s'il a le mauvais côté, un fils ne doit pas le faire.
Mais bien entendu, en interne, bien. En fait, tout est dans une politique et cela se construit autour de, je pense, une bonne politique culturelle qui doit être au cœur de la politique de construction de cette nation qui n'en a que très besoin.
Professeur Jean Bedel, on reviendra sur ces thèmes prochainement. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint à l'Institut National des Archives du Congo, INACO. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie, monsieur Jody Kachama.
Et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Donc, on va juste prendre quelques minutes pour conclure avec vous.
Merci beaucoup.